Donc nous sommes en compagnie de Lucien Polastron, grand connaisseur de l'Extrême-Orient, on l'a dit tout à l'heure, et qui a beaucoup travaillé sur l'histoire des arts de l'écriture, du livre et des bibliothèques. Son dernier livre, Calligraphie chinoise, l'art de l'écriture au pinceau, est un très bel ouvrage, bien illustré, qui vient de sortir aux éditions Actes Sud, Imprimerie nationale. Je parie que ce livre, dont une partie propose un dictionnaire des calligraphes anciens et modernes, deviendra vite la Bible de tous les passionnés qui souhaitent pénétrer l'univers de l'écriture-monde, comme le dit Lucien Polastron, et mieux comprendre les fondements de la civilisation chinoise. Alors Lucien Polastron, vous avez mis en exergue au tout début de votre livre une phrase de Casanova, « Membre de l'univers, je parle à l'air », qui paraît tout à fait inattendue pour le sujet et qui est pourtant merveilleusement adaptée. Casanova aurait-il un rapport avec l'esprit chinois ?
Ce que veut dire Casanova, c'est qu'il est très au-dessus de l'humanité. Et être au-dessus de l'humanité, c'est exactement ce que ressentent profondément les Chinois depuis des millénaires, dans la mesure où ils ne se considèrent que comme une poignée d'électrons qui se réunissent, se concrétisent pendant le temps de leur existence et qui ensuite, à leur mort, se rediffusent dans le grand univers. Voilà ce que pense Casanova par instinct, parce qu'il n'a pas vraiment réfléchi à la manière des Chinois. D'une manière générale, les intellectuels occidentaux et européens ont fermé la porte très longtemps et continuent d'ailleurs à le faire à un monde qui pourrait leur faire concurrence sur le plan de la profondeur et du rapport justement avec le cosmos. Donc Casanova l'a senti instinctivement. Mais pour le monde chinois, que du haut en bas de l'échelle sociale et à travers les siècles et les millénaires même, puisque nous avons ce genre de sensation formalisée par écrit déjà il y a 2500 ans, on n'existe que parce qu'on est en relation constante, permanente, avec ce qu'on peut appeler le cosmos, l'univers, ce qui existe.
Cela dit, la porte s'est un tout petit peu ouverte entre la Chine et la France au XVIIIe siècle, justement.
XVIIIe siècle, on a ouvert la porte, mais en biais, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'on a un petit peu biaisé les rapports et on a tenté de créer une espèce de grande colonie européenne en Chine qu'on a allègrement pillée en prenant 100% des lingots d'argent, bien sûr, et 1% de la culture, parce que c'était assez difficile à concevoir et à comprendre, et d'autant plus que c'était en contradiction totale avec, il faut bien le dire, nos religions. Donc, en fait, ce qui se passe en Chine, c'est qu'il y a une continuité, comme ça, du naturel, de la spontanéité, humaine, que vous pouvez constater n'importe où, tous les jours, même encore aujourd'hui et pour quelque temps encore. Et c'est ça qui est à la base de l'écriture et c'est ça qui est à la base de l'amour de l'écriture.
Alors vous posez d'emblée une question intéressante qui est comment se fait-il que tous ceux qui ont vu la Chine de près n'en reviennent jamais vraiment ? Est-ce que vous avez la réponse ?
Bien sûr, elle fait 300 pages, cette imprimerie nationale,
et vous l'avez sous les yeux. Donc c'est l'écriture la réponse.
Oui, moi je dirais qu'effectivement le phénomène le plus extraordinaire de toute la civilisation chinoise, c'est son écriture. Et donc il m'a semblé qu'il fallait s'y intéresser. J'ai commencé à m'y intéresser il y a 35 ans et il m'a fallu un certain temps évidemment pour arriver à me poser les bonnes questions et éventuellement proposer quelques suggestions de réponses que vous avez donc encore une fois sous les yeux. Mais ce qui s'est passé avec cette écriture, c'est la raison pour laquelle j'insiste en parlant de philosophie et de pensée chinoise, c'est qu'en fait elle est le reflet elle-même du cosmos. Et si elle s'est maintenue, si on n'a pas fait comme au Vietnam ou en Corée, créer une espèce de façon d'écrire différente de ce qui avait été mis au point plus ou moins il y a 2000 ans, puisqu'on peut dire que depuis 2000 ans, pratiquement, l'écriture, en tout cas la conception des idéogrammes n'a pas changé, l'ordre des traits et le nombre des traits n'ont pas changé, c'est parce que, tout simplement, on y sent la présence de la réalité, la présence des concepts, la présence du cosmos. Et donc, moi, j'y vois très très bien, à force de m'y intéresser, dans un caractère chinois, les lois elles-mêmes de la nature, avec une espèce de phénomène de attraction-répulsion entre les petits éléments qui sont les traits fondamentaux et qui composent le caractère.
Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'harmonie des hommes avec l'univers dont vous parlez, qui est à la base de la philosophie chinoise, donc de l'écriture, est un peu malmenée dans la Chine contemporaine ?
Alors, effectivement, j'ai eu une page extrêmement négative en conclusion de mon ouvrage précédent, qui était un peu l'introduction à celui dont nous parlons aujourd'hui, et qui était consacré aux instruments de l'écriture, aux objets qui permettent de faire de la calligraphie et de la peinture depuis des millénaires, et qui sont, c'est très intéressant à noter, des objets naturels. On ne peut pas faire de la calligraphie, de la peinture chinoise avec des objets industriels, avec du papier industriel, avec de l'encre industrielle. Ça n'existe carrément pas. Et il faut vraiment des poils de chèvre, des poils de lièvre, des poils de belette de Sibérie pour armer son pinceau et tracer des traits convenables. Et à la fin de ce livre qui s'appelait Le Trésor des Lettrés et qui est sorti à l'Imprimerie nationale en 2010, et qui est consacré à montrer que sur des centaines de pages comment les objets sont naturels et ils ne peuvent exister que parce qu'ils sont naturels et on a continué à les faire à la main depuis pratiquement à l'époque des Tang sans rien y changer, correspondent à un profond respect des Chinois pour la nature. Or, la dernière page, évidemment, de cet ouvrage-là, je ne suis pas revenu dans celui-ci, bien sûr, puisque je l'avais déjà fait, je l'avais déjà dit, est terriblement pessimiste, puisque depuis une dizaine d'années, on voit le monde chinois aller carrément à l'envers de ce qui a été fait pendant des générations et des générations. Je ne sais pas si vous le savez, mais au XIXe siècle, il était très mal vu de faire des recherches, des fouilles archéologiques, parce que soulever la terre en dehors, à part le soc de la charrue, c'était absolument immonde et criminel. Et donc, vous imaginez, aujourd'hui, quand on fait le barrage des Trois Gorges, à quel point certaines sensibilités de personnes anciennes, de lettrés chinois, doivent être malmenées. Et donc, vous allez le voir de plus en plus certainement, la Chine va être un des pays les plus pollués du monde d'ici très peu de temps, grâce d'ailleurs à Bill Gates en grande partie et à Steve Jobs, puisque on a très certainement une grande contribution de nos amis américains dans la pollution chinoise grâce à leurs petits gadgets interposés.
Les Américains polluent la Chine et la Chine finance l'Amérique. Jusque-là, l'équilibre va rester. Comment vous avez travaillé pour écrire ce livre ?
Je crois que j'ai laissé les choses se décanter.
Donc 35 ans.
Dans 35 ans. Non, j'ai eu la chance de voir des ateliers de fabrication des objets. Tel qu'il en existait pratiquement au 7e, 8e siècle et qui existe plus ou moins encore. Et donc ça m'a beaucoup frappé de voir qu'on pouvait faire du papier à la main avec de l'aubier de santal bleu comme fibre, qui est une fibre absolument merveilleuse, beaucoup plus longue que celle du coton, qui est considérée chez nous comme la matière première la plus noble pour faire le papier. Et ça m'a beaucoup impressionné de voir qu'il était possible de perpétuer comme ça un savoir-faire qui n'est pas vraiment rentable et qui ne représente pas des sommes folles. Donc j'ai commencé comme ça. Et ensuite, évidemment, j'ai appris le chinois, j'ai appris l'écriture, la lecture, et je me suis fait donner des cours par un maître de calligraphie. Donc j'ai pénétré, évidemment, l'essentiel, l'essence de cette écriture et de cet art. Mais aussi, j'ai discuté beaucoup avec des philosophes et des penseurs chinois, disons d'une manière plus simple, pour m'apercevoir qu'en réalité, tout était contenu dans leur écriture graphique.
Pourquoi dites-vous que si on découvrait aujourd'hui l'écriture chinoise, on ne la nommerait pas calligraphie, mais sinographie ?
Justement à cause de l'influence de nos penseurs occidentaux qui, voyant les Chinois faire de l'écriture, je vois les premiers témoignages des jésuites, d'ailleurs les premiers ne voient même pas La différence, c'est-à-dire qu'il n'était pas extrêmement malin. Voyant l'écriture chinoise et voyant la passion avec laquelle les lettrés écrivaient, la deuxième génération, disons, des jésuites a commencé à dire « Ah, c'est de la belle écriture !» Et donc, ils l'ont appelé, comme on dit, calligraphie, grâce à l'appellation qui vient du grec et qui veut dire « belle écriture ». Et en réalité, c'était une fondamentale erreur. La calligraphie chinoise n'est pas belle, ou alors plus exactement, elle est très accessoirement belle et peut être considérée comme un art et être montrée dans des galeries d'art. Mais en réalité, elle est beaucoup plus que cela. Elle est donc un trait d'union avec la nature et une expression de la pensée fondamentale de la civilisation chinoise. C'est très accessoirement qu'elle est belle. Elle est intéressante surtout dans la mesure où elle est l'expression personnelle très très profonde de gens qui ne sauraient pas s'exprimer autrement. En particulier, je pense aux gens qui ont, en tant que réfractaires à tout pouvoir, des ermites, créé ce qu'on appelle la calligraphie cursive folle, qui elle aujourd'hui est considérée comme une œuvre abstraite.
Cursive folle, voilà qui est joli comme nom. Alors, quand on parle de calligraphie chinoise, on parle de l'écriture du mandarin, bien sûr.
Oui, le mandarin est une façon de parler d'un langage qui a été un peu imposé, basé sur le langage du centre de la Chine, enfin de Pékin plus exactement, et ensuite imposé un petit peu à tout le monde parce que c'est une uniformisation nécessaire du langage. En fait, le mandarin n'a pas grand-chose à voir avec l'écriture, c'est simplement que, bon, il s'agit... Par coïncidence, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a choisi en fait surtout une écriture normalisée il y a 2200 ans sous les Qin. Et ensuite, bon, le mandarin est venu pour la prononciation surtout.
En quoi consiste la voix de l'écrit que vous signalez dans votre ouvrage ?
La voix de l'écrit, c'est une expression très intéressante qui a été formulée dans les premiers temps, au IVe siècle, on disait la voix de l'écrit, on disait shuda, expression qui a été conservée au Japon aujourd'hui, on dit shodo, la voix de l'écriture, mais ça a été blackboulé en quelque sorte par les confucéens qui ont été plus souvent au pouvoir que les taoïstes. D'ailleurs, les taoïstes ne s'intéressent pas du tout au pouvoir d'une manière générale, même si certains empereurs avaient des penchants quelquefois un peu cachés. Et la voie de l'écriture, évidemment, ça a un rapport avec le Tao, bien sûr, le Lao Tzu, et donc le taoïsme. Et beaucoup de gens qui étaient au pouvoir, des ministres, des empereurs, ont préféré imposer une nouvelle appellation qui était Shufa, qui veut dire les lois de l'écriture. Et vous voyez, comme par hasard, ce sont les lois tout de suite qui s'imposent. Et ça a été en particulier évident à ce sommet de l'histoire chinoise qui est l'époque des Tang, où on a créé réellement une école régulière de la calligraphie qui, jusque-là, était absolument indépendante et à moitié folle. C'est-à-dire qu'on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait. C'était absolument magique. Et les grands calligraphes, les plus grands calligraphes, sont du IIIe siècle, en fait.
Alors, est-ce qu'on sait quand le premier chinois a tracé des caractères avec un pinceau ?
Non, pas du tout. Ça se perd. En fait, on vient même, il y a une centaine d'années, de découvrir que la Chine avait une antiquité. Jusqu'à présent, on ne le savait pas qu'au XVe siècle avant notre ère, il y a des gens qui savaient déjà écrire sur des plastrons de tortue et des omoplates de buffle avec un poinçon. Les chamans, en effet, avaient déjà formulé les premiers idéogrammes et les premiers pictogrammes en gravant sur des ossements, sur des surfaces plates. Et ensuite, ça a été sur du bois et sur des lamelles de bambou. Mais l'histoire de la scapulomancie, c'est-à-dire la divination par les ossements écrits, n'a été connu qu'il y a une centaine d'années. Donc tout cela, ça se perd un petit peu dans les limbes.
Oui, ce que je me demandais, c'était comment ils sont passés des textes divinatoires à l'écriture, justement, sur papier, j'imagine, au moment de l'invention du papier.
Très simplement, si vous regardez dans les ouvrages d'archéologie les premières écritures sur omoplates de buffle, vous allez, à moins Si vous connaissez quelques caractères, déjà, reconnaître, vous allez reconnaître le ciel, vous allez reconnaître les hommes, la morphologie de l'écriture est déjà présente, embryonnaire, mais déjà présente.
Alors, dans votre livre, j'ai trouvé quelque chose d'amusant, c'est le rapprochement entre les traces d'insectes et la calligraphie.
C'est une légende aussi, mais qui a un certain fondement, qui est un fondement poétique, disons. On prétend que l'écriture s'est inventée en observant les traces d'insectes laissées dans la neige ou dans la terre, en même temps que le mouvement des étoiles. Et donc, on a inventé un personnage nommé Zhangjie, qui aurait été le chroniqueur de l'empereur jaune étant une figure mythique qui évidemment n'a pas vraiment existé il y a 50 000 ans. Et ce Zhangjie est représenté d'ailleurs dans l'imagerie populaire avec deux paires d'yeux superposés, puisqu'il était dit qu'il pouvait à la fois regarder les étoiles et les insectes. Et voyant ces mouvements des animaux et des étoiles, il aurait eu l'idée, dit la légende toujours, de tracer des traits, et ces traits se retrouvent dans le Yi Qing, bien sûr, et ce sont les stries en chinois, wen, le mot qui veut dire culture aujourd'hui, wen. En fait, à l'origine, ce sont tout simplement des stries. Alors on dit que ce sont naturellement les rayures du tigre qui ont un rapport avec ceci. Bien, tout est lié, vous comprenez. Et donc ça donne tout ça une espèce d'amalgame graphique qui donne le caractère quelques milliers d'années après.
En tout cas, ce sont des belles légendes. Est-ce qu'on pourrait dire que les caractères chinois fonctionnent comme des dessins d'enfants ?
À l'origine, absolument. Absolument. C'est-à-dire que vous pouvez dessiner un cheval et ensuite, si vous regardez le caractère cheval, vous allez reconnaître tout de suite un cheval. Il a sa crinière, il a ses pattes et il a la tête tournée, etc. Donc il existe comme ça un certain nombre de caractères aujourd'hui qui n'ont pratiquement pas ou très peu évolué et partent réellement d'un dessin de la réalité qui était à une époque la façon la plus simple et la plus naturelle de représenter les choses.
Celui que j'aime beaucoup, c'est la paix, la femme sous le toit. Je trouve ça extrêmement imagé.
Oui, c'est assez combattu également par naturellement les féministes en particulier, mais c'est une coïncidence, je crois, et qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui se passent sous le toit, et en particulier si on y met du jade, ça devient le mot trésor, enfin, et on trouve comme ça beaucoup d'éléments de coïncidence qui en fait doivent être pris pour ce qu'ils sont, seulement des procédés mnémotechniques pour nous, en tout cas pour nous simplifier l'apprentissage.
Alors, vous défendez l'idée d'une écriture chinoise universelle, un peu comme une sorte d'espéranto graphique. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Je crois que c'est Leibniz qui avait le premier observé que les caractères chinois, comme il était lui-même à la recherche d'une écriture universelle, une espèce d'espéranto, pouvait convenir comme langue qui serait comprise par tout le monde. Et il est de fait que si vous regardez le caractère qui veut dire chat en chinois et que vous avez appris ce caractère sachant qu'il veut dire chat, vous n'êtes plus obligé de le prononcer mao, mais vous pouvez le prononcer chat ou kit en arabe ou koshka en russe, et le caractère lui-même ne va pas changer, et si vous le montrez en russe, il dira oui, je vois bien que c'est koshka. Donc ce qui est montré ici, c'est le côté immuable de ce caractère, et donc sa signification n'est pas entièrement liée à sa prononciation, elle est liée simplement à sa figuration, et ça veut dire qu'effectivement ça pourrait être une langue universelle.
Eh bien, peut-être un jour. Alors, Simon Lay dit que la calligraphie est une méthode pour effectuer l'intégration harmonieuse de l'esprit et du corps, parce qu'en fait, quand on calligraphie, on a aussi une grande implication physique.
Il est de fait que quand on s'installe pour faire de la calligraphie, il faut absolument avoir un corps totalement détendu. Il y a une position très précise des pieds par rapport aux genoux, c'est-à-dire les pieds doivent être en avant des genoux, ne jamais replier les jambes sous la chaise. Il faut que la colonne vertébrale soit droite, verticale et parallèle au fût du pinceau, de façon à avoir un corps où ne se produise aucune tension, aucun effort musculaire, afin que toute l'énergie du corps se transfuse dans le bras droit et dans le poignet, et au bout du poignet dans les doigts, et au bout des doigts dans la pointe du pinceau. Autrement dit, toute votre force va aller dans le trait que vous écrivez. Et ça, c'est extrêmement impressionnant. C'est la raison pour laquelle, ensuite, les traits ont de la force, de l'énergie, et en fait, quand un Chinois parle d'une calligraphie intéressante, il va parler de sa force et de son énergie, et pas de sa beauté. Or, ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes comme ça, complètement détendu, c'est qu'en fait, il y a un aspect très bénéfique qui se produit. Votre respiration s'apaise, le débit de votre sang se ralentit, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au bout d'une heure de travail, d'exercice calligraphique, vous vous sentez comme si vous aviez fait du yoga ou des exercices de ce genre. Et c'était la raison pour laquelle également, on a remarqué que il y avait beaucoup de calligraphes qui pratiquent tous les jours, qui meurent centenaires. Donc, vous avez là un rapport évident, encore une fois, mais ça remonte à des éléments essentiels de la pensée chinoise, un rapport évident entre l'esprit et le corps, puisque ce corps bien détendu, bien à l'aise, se met à produire quoi ? Il se met à produire du sens, parce que la calligraphie, il ne faut pas l'oublier, ce sont des mots et ce sont des idées.
Donc c'est une sorte de méditation.
Une sorte de méditation, absolument.
Et c'est d'ailleurs pour ça que vous signalez que les médecins aujourd'hui en Chine prescrivent parfois à leurs malades de faire de la calligraphie.
Effectivement, pour ce que je viens de vous dire, c'est extrêmement bon pour la circulation sanguine en particulier.
Bon, il faudrait peut-être dire ça à la Sécurité sociale en France, ça pourrait être pas mal. La calligraphie sert à écrire, effectivement, mais elle permet aussi, en tout cas dans l'Antiquité chinoise, de communiquer avec les morts.
C'est ce qui s'est passé au début. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui encore, il y a une admiration totale pour le caractère écrit. Tout le monde voit qu'il a un rapport avec l'au-delà. Parce que c'est au début ce qui s'est passé avec la scapulomancie. Les chamans et les princes avaient l'exclusivité de l'écriture. Et pour cause, parce que tout simplement, il n'y avait pas d'école, bien sûr, à l'époque. Et donc, qu'est-ce qu'ils en faisaient ? Ils communiquaient avec l'au-delà. Et donc, les chamans, évidemment, c'était des charlatans, mais faisaient croire qu'ils voyaient dans l'éclatement sous l'effet du feu des ossements de buffles, ils voyaient ce que leur disaient les morts et les dieux.
Ça vaut bien l'oracle de Delphes.
Exactement, oui, c'est un petit peu ça. Non, ce qui a beaucoup impressionné les princes et puis le peuple, c'est que le chaman, une fois qu'il avait fait éclater se fissurer les ossements qu'il avait chauffés, prenait un burin et écrivait ce qu'il avait dit. Et ça, c'est là l'essentiel de ce qui s'est passé. Donc, il y a un rapport, effectivement, avec ce qui nous dépasse, oui.
Avec l'au-delà. Oui. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le taoïsme et la calligraphie. Donc, si on pouvait aller un tout petit peu plus loin sur l'implication des taoïstes et puis ensuite des lettrés.
Ce qui s'est passé avec le taoïsme dès Chuang Tzu, donc au 5e siècle avant notre ère environ, Chuang Tzu étant le philosophe le plus intéressant qui soit à mes yeux, parce que il a de l'humour et parce que il a des distances absolument irréfragables avec le pouvoir, c'est que on a fondé une façon d'être dans la société qui est tout à fait novatrice. Et ça s'appelle l'anarchisme. Donc cet anarchisme allait de pair avec un constat qui est que on a un rapport avec la nature qui est beaucoup plus important qu'un rapport social. Donc, les taoïstes ont été immédiatement en butte aux tracasseries des confucianistes qui, eux, arrivaient au pouvoir dans la mesure où le confucianisme était tout simplement un béaba de l'accession au pouvoir. Et c'est un béaba de l'ordre social. Donc, les taoïstes, eux, refusaient absolument ce genre d'idées. Il se trouve donc, et c'est assez logique, que les confucianistes ont promu une calligraphie régulière, très rapidement, l'ordre, tout de suite, l'ordre des traits, l'ordre des caractères, alors que les taoïstes, eux, étaient pour un laisser-aller, la spontanéité de la nature, passant par la spontanéité du corps et de la pensée humaine, et pour une calligraphie absolument individualiste et unique. Donc on peut dire que l'art du pinceau chinois est lié à ces philosophies.
Et quand vous regardez une calligraphie, vous savez si elle est confucianiste ou taoïste ?
On pourrait simplifier, oui, effectivement, le dire plus ou moins. C'est-à-dire que, d'une manière générale, il y a eu un grand mouvement à partir des Tang et qui a culminé au XVIIIe siècle avec Qianlong pour faire une calligraphie extrêmement belle, lisible, parfaite. Autrement dit, pratiquement des caractères d'imprimerie qui auraient été faits au pinceau, ce qui est très amusant puisque dans le même temps, quand on a inventé l'imprimerie, les fabricants des poinçons se sont ingéniés tout de suite à représenter en métal, en bois, des caractères mobiles qui imitaient le mieux possible les traits du pinceau. C'est un paradoxe absolu. Bref, donc les gens au pouvoir, les lettrés qui étaient sous Qianlong ont imité leur maître, l'empereur Qianlong, qui avait une graphie absolument parfaite, mais sans la moindre surprise. Toute originalité en était absolument bannie. Donc on peut dire qu'effectivement ce genre de calligraphie, qui est la calligraphie régulière montrée à sa plus haute expression, se voit immédiatement. Alors qu'une calligraphie un peu folle, la cursive qui devient pratiquement illisible tellement elle est forcenée et un peu hystérique, vient des rapports avec le taoïsme et des rapports du taoïste avec le chaos naturel.
Alors, puisque le mot « beau » n'existe pas en chinois ancien, comment regarder aujourd'hui une calligraphie, nous occidentaux ?
Il est évident que aujourd'hui, dans nos sociétés, on a tendance à dire « oui, c'est une belle œuvre abstraite » et ça fait penser à un mouvement américain des années 50 qui s'appelle l'expressionnisme abstrait. Mais je trouve que ce serait un peu dommage à ce moment-là, pourquoi s'intéresser à la Chine si on voit la calligraphie chinoise comme ça, on ne voit que la moitié des choses, même pas, je dirais 10% des choses. Non, ce qu'on voit dans une calligraphie, c'est son mouvement et sa spontanéité, et je dirais la force, la pulsion, qui sont des expressions du cœur humain.
Alors, à l'heure d'Internet, on saute quelques siècles. Est-ce que vous pensez que la calligraphie est condamnée à disparaître ?
Il y a de fortes chances qu'elle devienne un objet d'art, cette fois définitivement, qui sera l'apanage d'un petit nombre de spécialistes, parce qu'elle n'est possible que dans la mesure où on connaît par cœur la totalité du dictionnaire et qu'on a mémorisé l'ordre des traits et le nombre des traits fondamentaux qui composent chaque caractère. Ce n'est qu'à partir du moment où on est extrêmement pénétré de tout ce qui compose un caractère, au point qu'on puisse le tracer sans y penser, qu'on obtient le geste calligraphique pur qui présente un intérêt. Or, pour cela, il faut avoir mémorisé des milliers de caractères et donc quelquefois certains comportent 25 voire 30 traits qu'il s'agit de faire tous dans le même ordre et de façon immuable. Or, aujourd'hui, les jeunes, on l'a vu déjà au Japon depuis une vingtaine d'années, et les jeunes chinois ne vont plus mémoriser les caractères, ils n'en ont plus besoin, puisque il suffit d'utiliser les services de l'informatique, les logiciels d'aujourd'hui, pour étant donné évidemment qu'on a appris à lire, ça c'est absolument indispensable, pour voir exactement le caractère que l'on a envie d'imprimer et cliquer dessus pour qu'il se retrouve immédiatement sur la page blanche, bien composée et d'ailleurs avec une certaine qualité calligraphique régulière, ce qui est assez amusant. Mais on n'a pas besoin de le mémoriser. Ne le mémorisant pas, on n'est pas capable de faire la vraie calligraphie au pinceau.
Bon, eh bien, rendez-vous dans quelques années pour voir ce que devient la calligraphie en Chine. Lucien Polastron, merci. Je rappelle votre ouvrage « Calligraphie chinoise, l'art de l'écriture au pinceau ». Un très beau livre, très bien illustré, qui vient de sortir aux éditions Actes Sud, Imprimerie nationale.